Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Comment évolue l'industrie de la gastronomie en Afrique? On le sait, la cuisine africaine est très variée et délicieuse, mais réussit-elle à s'exporter et à s'imposer sur le plan international? Vous aurez la réponse avec notre invité. Il s'agit de Kamal Rahal Essoulami, qui est le président du TOC Afrique. Comme vous le savez, le Maroc vient de remporter l'édition 2024 du Bocuse d'Or et du TOC Afrique. C'était la semaine dernière à Marrakech. Nous en reparlons dans quelques instants. Quels sont les secteurs économiques à surveiller lors des prochains mois en Afrique? Quels sont les risques qui pèsent encore sur certaines économies du continent? Nous en parlons au cours de cette émission. Ce sera dans le Zoom Express avec l'économiste François Conradi. Comment faire des espaces frontaliers africains des zones de développement économique et d'accélération de l'intégration régionale? Nous évoquons le sujet dans Coémergence et ce sera avec notre correspondant à Abidjan, Max Soubi. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, nous allons à Abidjan et c'est pour justement parler des espaces frontaliers africains, surtout voir comment en faire des zones de développement économique et d'accélération de l'intégration régionale. Prenons donc la direction de la Côte d'Ivoire où le sujet a été discuté et notre correspondant Max Soubi nous en fait le compte-rendu.
À la 36e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue en 2023 à Addis Abeba, l'Union africaine avait annoncé la co-organisation avec la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire de l'édition 2024 d'Abidjan Border Forum. La rencontre, qui fera d'Abidjan la capitale des frontières africaines du 23 au 25 octobre prochain, constitue une véritable plateforme d'échange sur la problématique des échanges dans un élan continu et intégré. L'idée étant de développer des liens autour des frontières, des liens sociaux, des liens économiques et politiques. Professeur Ousmane Zina, président du comité scientifique d'Abidjan Border Forum. Diakali Diakonate, commissaire général d'Abidjan Border Forum.
Abidjan Border Forum a pour objectif de développer la vie active des frontières, d'en faire des lieux de production de l'État et des instruments de lutte contre les fragilités multiformes, transnationales, d'ordre social, économique, politique, sécuritaire et environnemental.
Abidjan Border Forum constitue une véritable plateforme d'échange qui s'offre aux experts nationaux, internationaux, aux experts de la société civile, aux praticiens et aux universitaires.
Le rendez-vous d'Abidjan offre ainsi d'énormes potentialités et opportunités socio-économiques dans le cadre de l'intégration sous-régionale et africaine. Josephine Charlotte Mayumkala, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine.
Le choix de la Côte d'Ivoire de tenir une rencontre périodique dénommée Abidjan Border Forum coïncide avec une décision prise par la Commission de l'Union africaine consistant à institutionnaliser un rendez-vous international sur les frontières étatiques, interétatiques africaines.
Le thème de cette édition est « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». La conférence inaugurale sera animée par le président de la Commission de l'Union africaine, Max Soubi pour Médien, Abidjan.
Coémergence, l'invité.
Je vous le disais en titre, comment évolue l'industrie de la gastronomie en Afrique? On le sait, la cuisine africaine est très variée et délicieuse, mais réussit-elle à s'exporter et à s'imposer sur le plan international? Vous allez avoir la réponse avec notre invité. Il s'agit de Kamal Rahal Essoulami, qui est le président du TOC Afrique. Comme vous le savez, le Maroc vient de remporter l'édition 2024 du Bocuse d'Or et du TOC Afrique. C'était la semaine dernière à Marrakech et nous recevons donc Kamal Rahal Essoulami pour en parler. Bonjour à vous, Kamal Rahal Essoulami, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous pour le suivi de tous les événements organisés par le groupe Rahal. Et aujourd'hui, le Maroc a gagné la TOC d'Or Afrique, Bocuse d'Or, et la Coupe d'Afrique de la pâtisserie, ce bel événement qui est organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.
Alors, on a largement, bien évidemment, parlé de cet événement, mais nous, on va mettre le focus sur le plan économique. L'industrie, est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'une industrie gastronomique en Afrique?
Il faut qu'on la développe, une industrie gastronomique en Afrique. Aujourd'hui, vous savez, pour promouvoir le secteur, ça passe par la promotion des femmes et des hommes du secteur, et c'est ça ce que le groupe est en train de travailler. Et aujourd'hui, on a besoin de valoriser, que ça soit la cuisine africaine en général. C'est rare où on voit aujourd'hui la cuisine marocaine est en train de se identifier dans pas mal de pays, mais pas à la hauteur, mais pas à la valeur qu'il doit avoir. Et surtout aujourd'hui, la cuisine africaine qui est tellement riche, variée, on ne voit pas beaucoup de restaurants africains qui sont en train de se développer déjà dans le pays. Dans le pays, on ne valorise pas déjà la cuisine. Au Maroc, il n'y a pas beaucoup de restaurants marocains. Ça se développe maintenant. Il y a même un programme de la SMIT qui fait la promotion de la cuisine marocaine. Mais on en a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de soutien pour promouvoir la cuisine africaine. La cuisine africaine n'a pas encore sa place qu'il doit avoir. Et là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'implications des différentes institutions dans les différents pays. On a besoin d'impôts, on a besoin de soutien, on a besoin de valoriser cette cuisine africaine.
Soutien et valorisation. Alors, est-ce que parce que les acteurs sont un peu en ordre dispersé, ou plutôt il n'y a pas peut-être ce gain économique qui est toujours là dans le domaine de la restauration en Afrique? Est-ce cela qui retarde cet essor ou cette émergence de la gastronomie africaine?
Vous savez, tous les pays africains parlent du tourisme. Donc nous, la promotion touristique, ça passe par la cuisine du pays. Quand vous voyagez, vous voulez découvrir la cuisine du pays, vous voulez découvrir les produits terroirs, vous voulez découvrir les saveurs du pays. En parlant du Maroc aujourd'hui, nous, on a un grand challenge. On a la Coupe d'Afrique, on a la Coupe du Monde, Inch'Allah. Tout ça, il faut qu'on travaille, il faut qu'on valorise. Mais aujourd'hui, il y a déjà un problème que tous les pays doivent travailler, c'est déjà répertorier cette cuisine africaine qui est riche. Mais avec le temps, on va la perdre. Donc déjà, on a un souci de répertorier, valoriser la cuisine marocaine, savoir qu'est-ce qu'on a comme héritage culinaire. Aujourd'hui, avec le temps, à certains moments, on aura le fast-food qui est en train de prendre de la place, on aura de la cuisine italienne, de la cuisine asiatique, et vous voyez, ils ont su, la cuisine française, ils ont su exporter, ils ont su valoriser c'est la cuisine de leur pays. Et c'est ça aujourd'hui. C'est à nous, les Africains, de voir comment on peut faire exporter notre cuisine africaine qui est tellement riche et variée.
Alors, quand vous parlez de valorisation, on pense aussi à l'aspect, est-ce qu'on doit revisiter cette cuisine? On sait tous que le goût en tout cas est là, il est convaincant, mais est-ce que l'aspect marketing, la présentation, je donne l'exemple tout souvent du mafé qui est consommé en Afrique de l'Ouest, c'est un plat extrêmement délicieux, mais est-ce que la présentation de ces cuisines-là favorise son adoption à travers le monde?
Moi j'ai deux choses. C'est-à-dire, moi, j'aime rester dans le traditionnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous venez chez moi, j'aimerais bien que vous donniez vraiment le plat, le couscous, le tagine, le tagine, mais pas de fusion. Mais on peut revoir la présentation. Donc, soit pour moi, il faut garder l'ancestral. Comment on cuisine, comment on présente, changer un peu la présentation, donner autrement, mais rester dans le contenant d'Inde. Et après, il y a ce qu'on appelle la cuisine fusion. On peut fusionner, mais c'est une autre cuisine, c'est la fusion avec la cuisine française, italienne, asiatique. Mais moi, j'aimerais bien garder la cuisine traditionnelle avec une retouche au niveau de la présentation, de la valorisation des contenants et la décoration et tout ça.
Alors, une question aussi qui s'impose, bien évidemment, c'est l'héritage. Et qui dit héritage pense bien évidemment à la formation. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est réellement fait?
Là, moi, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on a besoin de la formation. Aujourd'hui, au Maroc, on est en train de voir comment on va rehausser la formation. Mais ce qui est très important, et c'est un problème à tous les niveaux, au niveau de l'Afrique, on ne commence pas par la cuisine marocaine. Aujourd'hui, il y a un programme qui a été au niveau de l'Office de la formation professionnelle, qu'ils ont commencé à faire une branche cuisine marocaine. Aujourd'hui, dans chaque pays, il faut les écoles hôtelières ou les écoles de la formation professionnelle commencer par la cuisine du pays, valoriser la cuisine du pays la première année, la deuxième année, et après passer à la cuisine internationale, à la cuisine française, à la cuisine italienne. Malheureusement, à un certain moment, on commençait par la cuisine française et on oubliait la cuisine du pays. Il y avait une école Touaga qui était spécialisée dans la cuisine marocaine, mais il faut que toutes les écoles de la formation professionnelle commencent par former la cuisine du pays, valoriser les produits du pays et après, en deuxième temps, passer à une spécialisation, mais au moins tu as la cuisine du pays qui est valorisée.
Alors, une dernière question. Est-ce que la cuisine marocaine est appréciée et est-ce qu'elle s'exporte sur le continent?
Moi, je peux vous dire appréciée, oui. Nous, des Algo-Pahal, quand on fait des grands événements à l'international, il est apprécié, sollicité dans les grands congrès ou dans des salons culinaires. Mais il n'est pas exporté à sa hauteur, à sa valeur. C'est-à-dire aujourd'hui, on doit mieux valoriser les restaurants qui sont à l'international. Mais aujourd'hui, la Schmitt, comme je dis tout à l'heure, il est en train de valoriser, il est en train de promouvoir tout projet qui touche la cuisine marocaine et la pâtisserie marocaine. Et c'est à travers cette valorisation au sein du pays qu'on peut après promouvoir la cuisine marocaine et les restaurants marocains à l'international.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Kamal Rahal et Soulami. Je rappelle que vous êtes le président du TOC Afrique. Donc, le Maroc a remporté la semaine dernière l'édition 2024 du Bocus d'Or et du TOC Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Zoom Express.
Et nous allons parler des secteurs économiques à surveiller lors des prochains mois en Afrique. Quels sont les risques qui pèsent encore sur certaines économies du continent? Nous en parlons donc à présent avec François Conradi, il est économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, François Conradi.
Bonjour, Omar.
Alors, la question est toute simple. Quels sont les secteurs économiques à surveiller dans les prochains mois à travers donc le continent?
Économiquement, ce qui est en train de changer ou ce qui a récemment changé, c'est que les banques centrales européennes et américaines ont affirmé leur changement de direction de politique monétaire. On a vu des baisses des taux en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Et les banques africaines vont suivre celles qui n'ont pas encore commencé. Donc, on peut s'attendre, dans la plupart des pays, hein, pas tous, une baisse des taux d'intérêt là dans les mois, l'année qui vient, ce qui a tendance à encourager l'investissement et d'habitude la construction, le BTP en premier. Donc ça, c'est un secteur à surveiller, surtout dans les pays qui peuvent se permettre de suivre la tendance sur la politique monétaire. Après, il y a aussi, ce qui est très important, c'est qu'au Nigeria et en Égypte, deux des trois plus grandes économies de l'Afrique, il y a eu des dépréciations très importantes, dévaluations plutôt, des monnaies locales, le Naira et le livre égyptien contre le dollar, ce qui a toujours tendance à encourager une substitution des importations et les industries, encore une fois, puisque la main-d'œuvre tout de suite devient plus compétitive. Donc, nous avons déjà commencé à voir ça en Égypte, des annonces de grands investissements industriels en Égypte. Égypte, bien sûr, un pays qui a aussi l'avantage pour l'investisseur d'être proche du marché européen. Donc, on voit beaucoup d'argent, surtout de Chinois, mais aussi Coréens et Russes, et bientôt Saoudiens, qui va entrer en Égypte pour y établir des industries.
Alors, donc, à vous comprendre, la baisse des taux directeurs dans les grandes puissances comme l'Europe et maintenant les États-Unis devraient donc, venir, hein, devraient atterrir en Afrique, ce qui va donc encourager ou favoriser des secteurs comme les BTP, par exemple. Alors, cela dit, quels sont encore les risques qui pèsent sur certains secteurs économiques en Afrique ?
Le plus grand risque, c'est faiblesse, peut-être un mot plus juste, c'est des doutes sur la demande finale des ménages en Afrique. Donc, nous sortons de deux années d'inflation assez forte à travers le monde et les ménages s'en retrouvent financièrement affaiblis. Donc, le plus grand doute est ce doute-là, exactement. C'est est-ce que les ménages peuvent se permettre d'acheter ce que je vais vendre, ou même dans le cas d'entreprises qui veulent vendre au public, qui veulent vendre au gouvernement, est-ce que le gouvernement sera capable de lever les taxes pour me rembourser, vu cette faiblesse qui existe dans la demande finale dans l'économie?
Alors, cela dit, on sait que dans certains pays, il y a de nouveaux gouvernements qui arrivent avec de nouveaux plans de développement sur la base de vos observations. Quel secteur voyez-vous privilégié par ces nouvelles stratégies de développement? Je parle par exemple le cas du Sénégal.
Ok, donc dans le Sénégal, effectivement, ils ont des plans intéressants qui sont bien réfléchis pour prendre avantage pour profiter au maximum des avantages géographiques du pays, dans la logistique et le transport, par exemple. Oui, ce sont des bons plans, mais au Sénégal, enfin là particulièrement, le gouvernement est en train de se rendre compte qu'en fait, la situation fiscale est pire que ce que pensait le gouvernement en venant au pouvoir. Donc, cela pose des questions quant aux capacités du gouvernement l'année prochaine, donc sous un nouveau budget, à continuer avec tout ce qui est écrit dans le plan, par exemple. Et ces questions d'ordre fiscal, seront pertinentes dans beaucoup de pays. Hein. Il y a beaucoup de pays où les gouvernements, tout simplement, vont devoir vont avoir moins de capacité à dépenser. Nous voyons dans beaucoup de pays des efforts pour hausser les impôts et lever les subventions. Mais est-ce que ça va permettre de continuer à investir massivement? C'est à voir.
C'est donc à surveiller. Alors, une dernière question. Est-ce que globalement, vu la conjoncture internationale, vu cette guerre à Gaza, ces perturbations sur le trafic maritime qui persistent, les répercussions encore du Covid et de la guerre en Ukraine, globalement, quelle Est-on optimiste? Doit-on être plutôt prudent, pessimiste sur l'évolution future de l'économie africaine?
Il faut être plutôt prudent, je dirais. Vous avez parlé là de guerre et de conflit, et c'est vrai, c'est inquiétant tout ce qui se passe, mais ce qui est remarquable, c'est que malgré toutes ces mauvaises nouvelles, tous ces conflits, ce sont des nouvelles qui souvent font hausser les cours des matières premières. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que malgré tout ça, les doutes quant à la demande finale dans l'économie mondiale, et ce sont des doutes qui viennent de Chine, donc les commandes qui viennent des industriels chinois ne sont pas ce qu'elles étaient. Et c'est cette baisse de la demande pour les matières premières donc que nous exportons en priorité en tant qu'Africains, quel va être le cours du cuivre d'ici 12 mois, l'or, le fer, tout ce qu'on a l'habitude de vendre aux Chinois, les prix de ces matières risquent de baisser.
Donc c'est à suivre. Merci à vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Vous nous parliez depuis Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci Omar.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Médian Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Médian et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.